enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant entendre l'enseignement de la parole de Dieu et je proclame hardiment. Mon cœur est prêt à recevoir. Mon esprit est ouvert. Mon intelligence est réceptive. La semence incorruptible. La parole vivante et permanente de Dieu. Et je ne serai plus jamais le même. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Au nom de Jésus. Voilà, ce que nous venons de faire s'appelle le bon combat de la foi. C'est-à-dire, nous déclarons à haute voix des choses que nous croyons qu'elles vont s'accomplir et que quand nous ouvrons la Bible pour notre lecture personnelle ou que nous entendons un message ou que nous avons la prédication dans l'Église, c'est pas une chose de plus qui va nous passer par-dessus, mais c'est un moment où nous allons rencontrer à nouveau Dieu qui va nous parler directement. Et ce sont des paroles qui seront esprit et vie. Vous croyez ça? Alors vous ne serez pas déçus. Le sujet de ce soir porte le titre de « Quelle parole est dans ton cœur ?» Et je voudrais qu'on puisse réfléchir un instant sur ce qu'il se passe en nous. On peut être troublé de toutes sortes de façons des fois, troublé dans le sens de choses qui ne vont pas comme on voudrait. Mais il est bon de temps en temps de voir ce qui se passe en nous. Pas de tout le temps, je dirais, pour ruminer sur soi-même, mais de voir ce qui se passe en nous. Je pense à cette illustration biblique du fils prodigue qui était parti au loin. Et à un moment, il nous est dit que dans sa situation, quand il était là avec les cochons et qu'il avait faim et que se sentait mauvais et qu'il était bien malheureux, il nous est dit, la Bible nous le déclare de cette façon, elle dit « il rentra en lui-même ». Et il commençait à réfléchir, et en réfléchissant, c'était pas compliqué. Il avait dit, mais si j'étais chez mon père, même sans être le fils, même en étant un simple serviteur, j'aurais une meilleure situation que ce qui m'arrive ici. C'était très simple. Et donc il a pris une décision, il a dit, je vais partir. Je vais partir, je vais aller chez mon père, et même si je suis parti en étant un peu en désaccord avec lui, je vais m'humilier et puis je vais lui demander de me donner un simple poste de serviteur. Déjà, ça sera mieux. Donc, c'est cette façon de faire où nous avons besoin de temps en temps de faire le point. Alors, je crois que Dieu nous a créés comme des êtres complexes. D'accord? Nous sommes complexes. Mais nous n'avons pas besoin d'être complexés ou compliqués. Voilà. Mais nous sommes complexes. Complexe, ça veut dire il y a une grande richesse. Il y a beaucoup de possibilités. C'est ça que ça veut dire. On peut parler, par exemple, dans le naturel, dans des illustrations, on peut parler d'un complexe sportif. Il y a une différence entre un terrain de sport et un complexe sportif, d'accord? Un complexe sportif, c'est un ensemble de toutes sortes de bâtiments, d'équipements où on peut faire plein de choses, qui est beaucoup plus que juste un terrain de sport. Eh bien, il y a aussi toutes sortes d'êtres que Dieu a créés. Il y a des êtres qui sont des êtres très simples. Il y a des microbes, des bactéries, toutes sortes. Et puis, il a créé l'être humain. Il nous a dit que c'est le sommet de sa création. Le psaume 8 nous dit au verset 6, « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu ». Dieu a créé l'homme, c'est le sommet de sa création, et il nous a créé de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Au début, quand je lisais ce psaume, je ne pouvais même pas imaginer qu'on parlait réellement de l'homme. Je pensais souvent que on parlait de Jésus en tant qu'homme. Mais en réalité, ça nous parle tout simplement de la création de l'être humain. Donc un être complexe avec énormément de possibilités. Mais justement, de cette richesse et de cette complexité, souvent, Le diable veut semer le trouble dans notre vie pour que nous devenions complexés et compliqués. Mais il y a des choses que nous pouvons vivre beaucoup plus simplement. Beaucoup plus simplement que nous pensons. Par exemple, souvent, on s'investit aussi de toutes sortes de missions qui ne sont pas les nôtres. La Bible nous dit que quand on s'occupe des affaires des autres, je ne dis pas qu'il faut se moquer des autres en disant « on m'en fiche de ce qui leur arrive », mais la Bible nous dit que quand on s'occupe des affaires des autres, des fois c'est comme tirer les oreilles d'un chien. D'accord ? On peut avoir des conséquences, le chien peut mal le prendre et mordre en retour. Et donc des fois il y a des gens qui s'occupent de plein de choses qui ne les concernent pas, et après ils s'étonnent parce qu'ils ont eux-mêmes des problèmes, des difficultés, peut-être de relations. Alors, c'est vrai que Dieu voudrait que nous soyons une source de bénédiction pour d'autres personnes. Donc, nous ne sommes pas encouragés à être indifférents. Mais il faut faire une différence entre le moment où je dois intervenir quelque part, aider, proposer mon aide, et le moment où je crois que je suis investi de tout régler, de m'occuper de tout le monde, etc. Y compris des choses où je n'ai même pas une influence. D'accord ? Bon, on peut toujours dire qu'on peut prier, d'accord ? Mais on ne peut pas non plus avoir le ministère du monde entier. C'est pour ça qu'on est le corps de Christ. Donc, si déjà on fait ce que Dieu nous appelle à faire, ce sera déjà bien. Donc, recherchons des choses simples. Le roi David, qui pourtant était roi du peuple de Dieu, à un moment, il disait dans un psaume, « Je ne cherche pas des choses trop grandes pour moi. » Pourtant, on pourrait dire, lui, c'était le roi. Mais il disait, « Je veux rester dans une position humble, simple. » Donc, nous sommes complexes. Dieu nous a créés avec plein de possibilités, beaucoup de dons, de richesses, de capacités, et nous avons un désir simple. Tout être humain a ce désir. Et être simple, nous voulons être heureux. On a envie, on a besoin d'être heureux. Sinon, on est malheureux. Hein, je vous apprends rien. Alors, si vous voulez être heureux, il y a une bonne nouvelle dans la Bible, c'est que Dieu notre Père le désire encore plus pour nous. Et dans Ésaïe 48, on va lire les versets 17 à 19. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Eh bien, écoutez bien ça. Verset 18. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Ça, c'était une des pires choses que le croyant du peuple d'Israël pouvait imaginer. Que son nom soit effacé, qu'il n'y ait pas de descendance et que plus personne ne se souvienne de lui plus tard. Peut-être c'était parce que en eux était déjà inscrit ce désir de vie éternelle et de l'infini. Ils ne pouvaient pas supporter le fait que ma vie s'arrête et puis c'est terminé. Et au bout d'un moment, plus personne même se souvient que j'existais. C'est pour ça qu'on peut le mettre en rapport avec ce que nous lisons ici. Peut-être pour nous, dans notre situation, on ne pense pas forcément ça. Mais il y a peut-être des gens pour qui c'est vraiment un problème. Il y a beaucoup de couples qui désirent avoir des enfants et qui ne peuvent pas. Il y a beaucoup de promesses dans la Bible par rapport au fait d'avoir des enfants. Ta postérité serait comme le sable. Ton nom ne serait point effacé. Et un peu plus loin, il y a une promesse au verset 21. Ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. C'est-à-dire même si Dieu nous conduit dans un désert, des fois on a l'impression que c'est le diable qui nous conduit dans le désert, mais nous voyons que Jésus a été conduit par l'Esprit, poussé dans le désert. Dieu, des fois, fait que son peuple soit dans un endroit isolé, où il ne puisse justement ne dépendre plus que de lui seul. Dans le désert, par définition, il n'y a rien. Il n'y a rien que Dieu. Et Dieu peut faire alors, à ce moment-là, quoi ? Jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Là où il n'y a rien, Dieu peut faire jaillir de l'eau du rocher. C'est merveilleux ça. Et il nous a dit que c'est lui qui conduit dans ce désert. Donc si nous voulons être heureux, une première chose aussi pour nous qui est importante, c'est sachez ce que vous voulez. Beaucoup de gens sont malheureux parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Alors ils sont un peu indécis, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et je suis sûr qu'à certains, on leur pose la question, mais qu'est-ce que tu veux? S'ils avaient l'exprimer clairement et qu'on leur donne ce qu'ils attendaient, ils seraient peut-être quand même pas heureux parce qu'ils n'ont pas encore vraiment décidé ce qui finalement leur faut. Peut-être ils n'ont pas encore compris. De toute façon, la réponse sera toujours en Dieu. Parce que souvent, les gens pensent, si j'étais plus riche, je serais heureux. Si ceci, je serais heureux. Si... Et beaucoup de questions sont mal posées. Donc, sachez ce que vous voulez à la lumière de la parole de Dieu. Parce que beaucoup ont aussi des désirs insensés, et ce n'est pas parce que ces désirs seraient comblés qu'ils seraient heureux. Mais c'est une obsession, c'est une pensée que le diable leur met dans la tête. Il leur dit, si tu avais ça, alors tu serais heureux. Et donc, c'est certainement pas en se fixant des objectifs sur la base de désirs insensés qu'on arrivera. Donc pour être heureux, il y a certainement deux choses simples auxquelles on peut penser. C'est premièrement être bien dans sa tête et deuxièmement bien dans son corps. Bien dans sa tête, je pense à quelque chose aussi, c'est que si vous voulez être bien dans votre tête, vous ne pouvez pas vivre dans la tête de quelqu'un d'autre. Vous savez que beaucoup de gens vivent dans la tête des autres parce que leur pensée, c'est sous le temps, que pensent les autres de moi? Que pensent les autres de moi? Quel est le regard qu'ils ont sur moi? Qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Comment je dois faire? Comment je dois vivre? Comment je dois m'habiller? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, comment on peut le résumer ça? C'est qu'ils ne vivent pas dans leur propre tête. Ils vivent dans la tête des autres en essayant sans cesse de se poser la question des réactions. Et qu'est-ce que ça décrit? Ça décrit un manque d'assurance, l'assurance fondamentale d'être accepté, d'être aimé. D'accord? Parce qu'alors on cherche toujours à faire des choses qui vont plaire aux autres pourvu qu'ils m'acceptent. Et quand ils m'accepteront, alors on aura ce sentiment d'être aimé. Alors il y a une chose très simple à faire. C'est de venir auprès du Seigneur et de découvrir comment lui nous aime d'un amour inconditionnel. Plus on médite sur l'amour de Dieu, on se sent tellement aimé de lui, ça nous remplit d'assurance et de sécurité. Et donc, même si le monde entier est contre nous, nous on est bien dans notre tête. On est heureux. D'accord? Je dis pas que c'est toujours agréable. Mais rappelez-vous que beaucoup de prophètes dans la Bible, Jésus lui-même a connu beaucoup d'opposition. Pourtant, il ne déprimait pas. Il n'était pas tourmenté ou obsédé par toutes sortes de choses. Il était bien, il savait qui il était. Donc, aussi par rapport, des fois, on prend beaucoup l'exemple des jeunes, je pense aux ados. Donc, il y a beaucoup ce phénomène de, on veut s'identifier par rapport à un groupe, par rapport à une bande, et on voit des jeunes qui commence à tous avoir la même tenue vestimentaire, ou les mêmes modes, ou des fois ils écoutent les mêmes musiques, etc. Tout, même chose. C'est dans un seul but, c'est ce sentiment de vouloir être accepté. Et donc, ça me parle de ce malaise qu'il y a. On n'est pas bien dans sa tête. Mais nous pouvons donc être heureux et bien dans notre tête. Et si on en a besoin, justement, comme je disais, par rapport aux pensées, eh bien, on peut les renouveler avec la parole de Dieu. Il y a aussi des chrétiens qui sont mal dans leur tête, parce qu'ils essaient toujours de faire ce que d'autres font par rapport aux hommes, eux, ils le font par rapport à Dieu. Comprenez ce que je veux dire? Ils ne connaissent pas réellement Dieu. Ils ont une certaine expérience de lui, mais ils ne le connaissent pas réellement. Alors, ils essaient toujours de lui être agréables, en essayant de satisfaire à toutes les exigences qu'ils peuvent imaginer dans leur religion, de la façon dont Dieu voudrait qu'ils agissent, qu'ils se comportent, etc. C'est surtout beaucoup de choses extérieures souvent, pas intérieures, c'est extérieures. Vous voyez comme ces groupes religieux justement, où là, de la même façon que pour les ados, on s'habille tous pareil. Hein. On en connaît certains groupes, par exemple les juifs orthodoxes, on les repère avec leur long entonnoir, avec leur chapeau, etc. Donc il y a aussi là un phénomène où il y a une identification en groupe, parce qu'on pense, on le rattache à de la religion, et on pense que ça, c'est une façon dont Dieu nous sera favorable. Donc pour être bien dans sa tête, eh bien il faut renouveler nos pensées par la parole de Dieu, commencer à le voir tel qu'il est. C'est pour ça que c'est tellement bon de faire régulièrement cette prière de Éphésiens, où nous pouvons prier, Éphésiens 1, 17, que le Seigneur nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc pas dans la connaissance de « je sais des choses sur Dieu », de connaître lui tel qu'il est, d'accord ? Sa connaissance, la connaissance de Dieu. Ensuite, bien dans son corps. Être bien dans son corps, là encore, il faut trouver cet équilibre entre le culte du corps, tel que beaucoup le pratiquent autour de nous, dans notre société, que ce soit au niveau des champions sportifs, ou des top modèles, ou de je ne sais quoi encore, on pratique un certain culte du corps et de la façon dont quelqu'un doit être, ou alors certaines personnes religieuses, ou pour d'autres raisons, ont basculé dans autre chose qui s'appelle le mépris du corps. Alors on est toujours en soit on met trop l'accent, soit on met trop l'accent sur le rejet et le mépris. Les deux sont tout aussi fausses, d'accord ? Nous avons à honorer Dieu pour le corps qu'il nous a donné, parce que ce corps nous est utile pour vivre dans ce monde. Non seulement c'est utile, mais aussi c'est agréable, d'accord ? Parce qu'il y a des bonnes choses qu'on peut aussi vivre au niveau de tout notre être, esprit, âme et corps. Donc heureux, c'est bien dans sa tête, bien dans son corps, en ayant compris, savoir ce que nous voulons. Qu'est-ce que vous voulez ? Si je vous pose la question, qu'est-ce que vous voulez pour votre vie ? Vous devez pouvoir le formuler et le formuler clairement et sans réfléchir pendant des heures, d'accord ? Ça doit être quelque chose, et c'est là qu'on en vient. Quelle parole est dans ton cœur ? Quelles sont les paroles ? Les paroles correspondent à des images, à des visions, à de l'imagination, de choses que vous désirez. Hein ? Qu'est-ce que vous désirez ? Est-ce que c'est une salle à manger ? Est-ce que c'est la maison de vos rêves ? Est-ce que c'est un bateau ? Bon, ça c'est des choses matérielles, mais des gens poursuivent comme ça des objectifs. Certains désirent ardemment, le rêve de leur vie, c'est de partir à la retraite. Des choses comme ça. Mais c'est vrai, je vous assure, pour le monde du travail, on rencontre des gens qui vivent constamment dans une attente. Le matin, ils attendent le soir. Le lundi, ils attendent le vendredi. Et toute l'année, ils attendent les vacances. Et toute leur vie, ils attendent la retraite. D'accord ? Donc, ils se projettent toujours vers quelque chose qui va venir un jour. Ils ne sont jamais capables de vraiment apprécier le temps présent. Pourtant, c'est le seul qui nous a été donné. Ça, j'aime bien le dire. Le passé, vous ne pouvez plus le changer. Le futur ne vous appartient pas. Mais Dieu vous a donné un présent, le présent. D'accord ? Et c'est dans celui-là que nous vivons. Donc, que se passe-t-il en nous ? Dieu nous a créés riches, complexes, avec beaucoup de possibilités. Nous voulons être heureux, lui aussi le veut. C'est une bonne nouvelle. On peut être bien dans sa tête, bien dans son corps, équilibré. Et maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui va déclencher finalement cette capacité de changer quelque chose dans notre vie. La capacité de changer vient parce qu'il nous a créés à son image. Nous étions des esclaves, d'accord ? Nous le croyons, parce que la Bible dit, peut-être d'autres ne le réalisent pas, mais ils le sont tout autant. L'être humain de nature naît et se comporte comme un esclave. On a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dominer. Beaucoup de gens disent « c'est trop fort pour moi » ou « je ne peux pas m'empêcher ». Et par là, ils expriment une seule chose, c'est qu'ils ne sont pas maîtres de leur destinée ni de leur vie. Il y a quelque chose qui domine sur eux. Hein? Même si c'est le fait de se jeter sur une tablette de chocolat, ils ne peuvent pas pouvoir s'empêcher de la dévorer. Et ça montre qu'il y a une bataille, il y a quelque chose qui est plus fort que nous des fois. Alors, pour parler de choses plus importantes que ça, nous n'avons pas besoin de subir. Nous n'avons pas besoin de demeurer des esclaves. Pourtant, nous le sommes tous de naissance. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons été rachetés. autrefois, bon, ça existe encore dans le monde moderne, hélas, mais on se rappelle plus particulièrement peut-être de l'Antiquité et du système d'esclavage qui était quasi généralisé, on pouvait vendre et acheter l'être humain comme de la marchandise. D'accord ? Eh bien, donc quand un esclave appartenait à quelqu'un, mais qu'un autre l'achetait, après, il lui appartenait, il pouvait en faire ce qu'il veut. Eh bien, Dieu nous a rachetés. Il nous a rachetés pour lui, mais il nous a rachetés pour lui pour que nous ne soyons pas dans une position d'esclave, mais il nous a rachetés pour lui et il nous a adoptés dans sa famille. Et il nous a donné tous les privilèges de sa maison. C'est ça la réalité que la Bible nous dit. Des fois, on a l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Pensez à un conte de fées, mais réveillez-vous, c'est dans la parole de Dieu. Donc, on n'a pas besoin de subir et d'être esclave. Jean 8, 31, vous pouvez le lire avec moi. Jésus s'adresse à des personnes qui pensaient être des élus de Dieu, qui pensaient qu'ils avaient leur destinée en main. Et pourtant, il leur dit que c'est lui qui leur apporte la vraie libération. Jean 8, 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » D'autres mots, vous apportera la vraie liberté. Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment, dis-tu, vous deviendrez libres ?» Et le peuple juif même, en étant occupé par les Romains, et les Romains pouvaient faire ce qu'ils voulaient d'eux, hein, pouvaient les obliger, les contraindre à faire beaucoup de choses, ils avaient en eux cette fierté et ce sentiment d'être les élus de Dieu, et ils n'acceptaient pas l'idée qu'ils soient réellement dans une situation d'esclavage. Donc ils continuaient, malgré, je dirais, l'évidence, de déclarer « Nous ne sommes esclaves de personne ». C'était... D'un côté, c'était un peu d'orgueil, si on veut. D'un autre côté, c'était cette fierté d'appartenir au peuple de Dieu. Il y avait un côté positif et un côté plus négatif, disons. Mais, donc, Jésus leur dit, ils disent, « Comment, dis-tu, vous deviendrez libres ?» en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Il parle toujours du fond du problème, pas sur des choses extérieures. Juste la politique ou la religion. Il parle de ce qui concerne vraiment la préoccupation de l'homme. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, on ne peut être réellement libre, réellement bien, que si réellement on a été affranchi par le fils. Et le fils nous affranchit au travers de sa parole. Sa parole qui est la vérité, qui nous éclaire sur la réalité de ce que nous sommes, dans l'état dans lequel nous sommes, et qui nous montre aussi le moyen d'en sortir. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est comme ça que vous pourrez y arriver. Demeurez dans la parole. Quelques-uns ont déjà demeuré dans la parole? Des fois, on demeure seulement périodiquement. D'accord? Mais après, quand on y demeure périodiquement, on se rend compte qu'il y a des choses dont on s'était débarrassé, où on avait pris le dessus, qui reviennent. Dans le naturel, on dit ce proverbe, justement, chasser le naturel revient au galop. C'est-à-dire que si vous avez des domaines dans votre vie où le Seigneur a agi, il vous a transformé et il vous a permis d'avoir la victoire, si vous ne demeurez pas dans la parole, je vous dis pas ça pour que vous ayez peur ou que vous n'ayez pas d'assurance, mais rien ne vous garantit à ce moment-là, si vous ne demeurez pas dans la parole, que certaines choses ne vont pas revenir. Et certains disent, oui, mais si Dieu fait quelque chose, alors il le fait vraiment, il le fait entièrement, et alors c'est terminé une fois pour toutes. Mais si c'était le cas, la Bible ne dirait pas, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ça ne veut pas dire que Dieu n'ait pas fait une vraie œuvre de délivrance, mais ça veut dire que le diable est toujours là à guetter, de voir s'il y a un moment de faiblesse, où il peut de nouveau s'engouffrer. Mais en demeurant dans la parole, c'est cette façon d'exercer notre foi, le bouclier de la foi, et de pouvoir lui résister. Autre passage parlant de l'esclavage, que nous n'avons pas besoin, je vous rappelle, de subir, Romains 6, 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Donc, c'est pas une nouveauté, ça. C'est toujours le même message de l'Évangile. Il faut qu'il y ait cette identification avec Christ. Il vient des moments dans votre vie où Dieu vous permet certaines choses, et il y a des moments où ça sera à nouveau une bataille pour décider de dire « Je renonce à ceci ou à cela » afin d'être davantage attaché à Christ. Parce que lui aussi a renoncé à énormément de choses. Je ne parle même pas de péché. Je parle à des choses légitimes. D'accord ? Pensez un instant. Si Jésus s'était marié, est-ce qu'il aurait eu le droit ? D'accord ? Bien sûr. Est-ce que ça aurait été un péché, se marier ? Non, bien sûr que non. Mais, sachant qu'il avait une mission bien précise, ce n'aurait pas été responsable de sa part de fonder une famille pour savoir que de toute façon il était appelé à quelque chose et qu'il n'allait pas pouvoir prendre soin de cette famille. Ok ? Peut-être vous n'êtes jamais posé cette question, mais c'est quelque chose qui est, en tant que soi, qui n'est pas un péché qu'il n'a pas commis, mais c'est simplement un aspect de sa vie où il a renoncé. Il a renoncé. Il faut quand même être logique. Il était un homme comme tout le monde. Il se peut qu'il ait eu aussi des personnes autour de lui qu'il voyait, peut-être entre guillemets ses amis, et qui devaient logiquement se marier les uns après les autres. Et lui restait dans sa position consacrée à Dieu. C'est un des aspects, c'est pour le rendre plus vivant par cette illustration que je vous dis ça, un des aspects où il peut y avoir un renoncement à certaines choses légitimes pour s'attacher davantage à être au service de Dieu. Nous croyons que ce n'est pas nécessaire d'être célibataire pour servir Dieu. On croit qu'un serviteur de Dieu peut se marier. On voit dans la Bible que les hommes de Dieu ont été mariés, que des couples peuvent servir Dieu. Mais on voit aussi que l'apôtre Paul lui-même a écrit que dans certaines circonstances, il vaut mieux ne pas être chargé de famille parce qu'on est plus libre à l'égard du service pour Dieu. Donc sans en faire une obligation, on peut comprendre que certains reçoivent alors de Dieu cette capacité de rester seul, ne pas se marier et s'engager pour le service. C'est un aspect. Et pour d'autres, ça sera autre chose. Et pour vous, vous avez besoin de réaliser qu'est-ce que Dieu me demande à moi pour mieux courir dans la course. Celui qui veut courir ne peut pas s'encombrer de plein de choses, d'accord ? Si vous faites une randonnée, que vous avez votre sac à dos et la tente pour faire le camping et tout dedans, vous n'êtes pas dans une condition pour faire le sprint des 100 mètres, d'accord ? Mais celui qui veut faire le sprint, alors il met le minimum pour être léger, pour courir le plus vite possible. Donc il faut comprendre ce que vous êtes appelé à faire pour ne pas vous encombrer. Ok ? Donc nous, qu'est-ce qui nous arrive ? Nous sommes morts avec Christ et nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Pas plus tard, maintenant. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Et on peut rajouter, et nous aussi c'est pour Dieu que nous vivons. Rappelez-vous, et ça c'est formidable, parce que beaucoup de religions demandent à leurs membres de sacrifier des choses pour leur Dieu, des fois même d'offrir leur vie. En fait, offrir leur vie, pour eux, ça veut dire mourir et s'arrêter de vivre. Mais notre Dieu nous demande d'offrir un sacrifice vivant. C'est-à-dire, on ne lui offre pas notre mort, mais on lui offre notre vie. C'est différent, parce que c'est le Dieu de la vie. Alors, nous avons, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la capacité de changer. Un esclave n'a pas la capacité de changer. Il ne peut rien faire. C'est pour ça qu'il est esclave. Jean Jérémie 13, verset 23, nous disons la chose suivante. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un Éthiopien, on imagine qu'il a la peau noire. Il ne peut pas changer sa peau. Et un léopard peut-il changer ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Ça, c'est un passage qui nous parle avant la nouvelle naissance, avant la mort et la résurrection de Jésus. Il n'y avait pas encore pour l'homme de capacité de changer. D'accord? Il était resté attaché à sa nature du péché. Mais 2 Corinthiens 5, 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. » Ça, c'est ce que la nouvelle naissance apporte. Une nouvelle vie. Nouvelle naissance, nouvelle vie, nouvelle nature, nouvelle personne. Tout est nouveau. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et je précise, toutes choses sont devenues nouvelles au passé. La Bible ne dit aucunement, et dans aucune version, vous cherchez tout ce que vous voulez, dans toutes les langues, ne dit pas « les choses sont en train de changer graduellement ». Non, elle dit « toutes choses sont devenues nouvelles ». L'œuvre de Dieu, c'est une œuvre de rédemption totale, nous naissons dans un autre royaume, et c'est une autre personne. Si on dit, vous vous rappelez qu'autrefois tu avais fait ceci, cela, votre mémoire peut s'en rappeler, vous pouvez expliquer à votre façon, votre expérience, que pour vous, Dieu vous a donné une nouvelle vie en Christ. Je dis même, quand vous l'avez compris parfaitement, vous n'avez plus besoin de rougir de vos péchés passés. D'accord? Vous pouvez vous tenir devant Dieu, sans sentiment de honte, de culpabilité, sans aucun complexe d'infériorité ou de quoi que ce soit, parce que Dieu vous a pardonné parfaitement. Alléluia. Un esclave, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il ne peut pas changer sa destinée. Mais nous pouvons changer les circonstances. Hébreux 11, 3 nous dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Donc quand je vous dis ça, peut-être vous pensez tout de suite la création de la planète Terre. Ça en fait partie, mais c'est bien plus que ça. Donc pensez un instant, il y a des versions qui disent que l'univers a été formé. Alors, on ne parle même pas de la création de l'univers. Une autre version dit « les mondes ont été formés ». Mais je crois que nous avons tous notre monde. On peut le dire comme ça, d'accord? On vit dans un monde, mais nous avons aussi tous notre monde. Des fois, on dit notre petit monde, les gens de notre famille ou l'entourage, les enfants. Vous avez votre monde du travail, vous avez votre monde. Donc, nous avons tous un monde. Nous vivons dans le monde, mais nous avons un monde. Moi, je dis, d'après la parole de Dieu, par la foi, vous pouvez reconnaître que Dieu peut changer votre monde. Votre foi peut changer votre monde. C'est le titre d'un livre, et c'est vrai. Votre foi peut changer votre monde. Alors, comment Dieu a-t-il créé au début, au commencement, Genèse 1:1? Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Même lorsqu'il n'y a rien, lorsque c'est désert, que se passe-t-il? Lorsque c'est les ténèbres, à la surface de l'abîme, abîme, un grand trou, ténèbres, rien, vide, informe, pas de forme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand l'Esprit de Dieu agit, c'est bien, mais la Bible ne dit pas « et alors tout a été créé ». Il nous est dit au verset 3 « Ensuite Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut ». C'est les deux ensemble, la semence de la parole par la parole de Dieu prononcée et la présence de l'Esprit de Dieu qui agit et qui se mouvait au-dessus des eaux. Et c'est comme ça que votre vie est changée. Vous voulez changer quelque chose dans votre vie? Alors faites ceci. Laissez l'Esprit de Dieu agir sur la semence de parole que vous prononcez et vous changerez votre monde si vous le reconnaissez par la foi. Hébreux 11, 3. C'est par la foi que je reconnais que mon monde peut être changé par la parole de Dieu, de sorte que ce que je verrai ne sera pas fait de choses visibles. Ce qui est visible, j'ai toujours tendance à croire que c'est plus réel que les choses invisibles. Mais la Bible nous dit exactement le contraire. Elle dit que les choses visibles sont passagères. Quand je regarde cette chose-là, solide, métallique, J'ai l'impression que ça va durer pour toujours. Mais la Bible dit, ça c'est une chose qui est visible, mais passagère. Et quand je prononce des paroles, l'être humain a tendance, même le proverbe le dit, les paroles s'envolent, mais l'être humain a tendance à penser que ça c'est pas quelque chose d'important. Les gens disent n'importe quoi. On en parlait encore avec mon épouse dernièrement, avec des gens, on avait des rendez-vous, ils sont jamais venus, et etc. On les attendait, une fois on avait tout préparé, la chambre et tout. Et puis on a un coup de fil le soir, et on était sur le point de se coucher. On dit, ah oui, finalement on avait changé de programme. Et donc on a des fois tendance à se dire, mais il y a des gens pour eux, la parole ne veut rien dire du tout. Et je peux vous prévenir que si je dis que je viens vous voir, je viendrai à moins qu'il y ait un empêchement majeur, mais sinon, pour moi, ça veut dire quelque chose. Et pour Dieu aussi, ça veut dire quelque chose. Quand sa parole sort de sa bouche, elle ne revient pas sans effet, elle produit quelque chose. Donc c'est formidable, nous pouvons changer notre destinée. Comment ces choses vont-elles se passer? Cela se passe dans notre esprit. L'esprit, on ne peut pas le voir, hein. C'est quelque chose de réel. 2 Corinthiens 4, 18, c'est ce que je disais à l'instant. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Ça, déjà, c'est une folie, hein. Je veux dire, celui qui comprend rien à la parole de Dieu, aux choses de Dieu, il nous écoute dire ça. Nous, ce que nous regardons, c'est les choses invisibles. Dire, ah oui, très intéressant. Mais c'est ce que la Bible dit, parce qu'elle dit qu'il y a des choses qu'on ne voit pas et qui pourtant sont une réalité. Hein? Je ne vois pas l'air que je respire, mais je le respire tous les jours. Et c'est une réalité. Et s'il n'était pas là, eh bien, je ne serais plus là non plus. Les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Moïse, ce qu'il a accompli, dans un premier temps, il voulait faire une œuvre de libération, nous le savons par la chair. Il a tué un Égyptien, il pensait que les autres verraient que c'est lui le libérateur. Ensuite, il a passé 40 ans de formation dans le désert pour comprendre que ce n'est pas ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit. Et quand il a cette fois-ci été envoyé par Dieu, les choses se sont faites dans l'esprit et plus dans la chair. Et Hébreux 11, 27 nous dit, « C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. » Il avait appris à voir l'invisible. Si vous voulez accomplir l'impossible, il faut apprendre à voir l'invisible. Ok ? Bon programme, hein ? Notre esprit, c'est mon troisième point, notre esprit agit dans ce monde. C'est par l'esprit que ça se fait, c'est dans notre esprit que ça se fait. Notre esprit agit dans ce monde. On a parlé du corps, nous avons reçu un corps. Je ne voudrais pas lire tout le passage, mais dans 2 Corinthiens 5, au verset 1 et suivant, nous avons quelques explications par rapport au corps. Il dit, nous savons que si cette tente dans laquelle nous habitons, il considérait que son corps, c'était comme une maison, une tente, et le vrai lui était à l'intérieur. C'est une bonne façon de voir les choses. Il dit, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Un corps incorruptible, glorieux, nous attend. Nous allons le revêtir un jour, d'accord ? Nous allons recevoir ce corps incorruptible. Ce sera le prix de notre foi au moment où le Seigneur va nous transformer. Et dès maintenant, nous sommes maintenant un esprit qui habitons dans un corps. Et nous devons, comme je l'ai dit, pas mépriser ce corps, parce que ce corps nous permet d'avoir une influence dans ce monde. Si nous étions juste des esprits, nous n'aurions pas de contact avec le monde physique. Mais parce que nous sommes des esprits dans un corps, nous pouvons avoir une influence sur cette terre. Les anges ne sont pas envoyés par Dieu pour prêcher l'évangile. Mais c'est aux êtres humains qu'il a réservé la capacité de pouvoir annoncer les oracles et les paroles de Dieu. Donc nous avons, grâce à ce corps que nous avons reçu, une capacité d'agir dans ce monde. Mais c'est notre esprit qui agit au travers de ce corps. Ce corps peut agir dans le monde physique, par des paroles, des actes. Ça, vous comprenez, vous pouvez agir. Vous pouvez travailler, vous pouvez faire des choses. Et par des paroles, vous pouvez avoir une influence. Je parle même dans le monde naturel. et par des actes. Quand je pense ce que nous pouvons faire en tant qu'êtres humains par rapport à ce corps que Dieu nous a donné, je suis toujours émerveillé, je dirais d'une certaine façon, par les dompteurs de cirque. Vous savez, quand ils rentrent dans la cage avec tous ces fauves, tigres, si ces fauves savaient que c'est pas la petite baguette, le fouet qui pourrait les obliger à faire quoi que ce soit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un être humain qui, je ne dis pas forcément chrétien, mais il a compris quelque chose du principe du Créateur du début, où Dieu avait dit, dans Genèse 1, 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les animaux. » D'accord? Il le créa à l'image de Dieu. Ensuite, il dit « Multipliez, remplissez, assujettissez et dominez sur les animaux. » Et ces personnes, dompteurs, dresseurs, etc., ils reprennent à leur compte ce principe de Dieu de la domination. Ils n'ont aucune capacité physique de dompter ces fauves. D'accord? S'ils venaient à l'esprit du lion qu'il en a assez de ce bonhomme avec son fouet et qu'il a envie de le croquer, eh bien, ce serait vite terminé. Mais cette personne, il émane de cette personne une autorité qui lui permet de dominer. Et cette réalité est une illustration de ce que notre être humain sur terre peut faire. Maintenant, imaginez, pas cette fois-ci simplement dans le naturel, ce même homme qui comprend qui il est en Christ, qui commence à prendre sa place et qui commence à vivre les choses que Dieu attend de nous. Et cette fois-ci, il ne dit pas des paroles dans le naturel. Il dit cette fois-ci des paroles spirituelles, des paroles qui sont esprit et vie. Alors, vous pouvez les déclarer. C'est votre privilège en Christ. Vous pouvez faire deux choses pour des paroles, je les appelle les paroles les plus puissantes. Vous avez des paroles dans le naturel, vous pouvez faire des choses. Vous pouvez, dans votre champ d'action, dans votre monde, exercer une certaine autorité. Mais maintenant, on va dans la sphère du spirituel. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit des paroles plus puissantes qui sont esprit et envie et vie. Marc 11 nous dit au verset 23 que vous pouvez les déclarer et au verset 24 que vous pouvez les prier. Alors, des fois, c'est selon que vous êtes guidé ou selon que vous préférez, vous pouvez soit les déclarer, soit les prier, mais le résultat est le même. On va les voir ensemble. Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je garde juste la fin pour que ça vous parle davantage. Si tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas quelqu'un d'autre, un homme qui l'a dit, c'est Jésus qui déclare ça. Et Jésus, mais avant ça, il met cette petite phrase, « Je vous le dis en vérité. » D'accord? Jésus dit, « Je vous le dis en vérité. Si tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. » Vous voyez maintenant les perspectives pour votre vie, tous vos problèmes, toutes vos montagnes, toutes les impossibilités que vous aviez jusqu'à présent. Si tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Jésus te le promet. Jésus te promet que si tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Ensuite, il y a des personnes qui ont un petit peu du mal par rapport à ça. Alors, il nous a donné une autre possibilité qui, je dirais, c'est pour ceux de la foi n'est pas développée à ce niveau. Mais ils ont encore cette tendance à s'adresser à Dieu pour faire des choses. Et c'est une étape où, dans certaines choses, nous ne pouvons pas imaginer la portée de nos paroles, mais nous pouvons imaginer que Dieu le fera pour nous. Alors il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça fait le même résultat. Croire, prier, le voir s'accomplir. D'accord? Mais, moi j'aimerais insister sur la première partie. Que vous pouvez dire des choses pour que ça change. Ne dites pas constamment les choses telles qu'elles sont. commencez à avoir cette vision de Dieu où vous voyez les choses changer. Les lois spirituelles sont au-dessus des lois naturelles. D'accord ? Là encore, on pense, la plupart des, dans le monde, les gens pensent, il existe des lois, et alors dans notre pensée, certaines personnes ont élaboré un Dieu, parce que ça les aide à vivre un petit peu, sinon ils se sentiraient un peu perdus ou isolés dans ce grand univers vaste. Mais nous croyons que en réalité, il a existé un monde spirituel et un être éternel qui s'appelle Dieu, avant que quoi que ce soit n'ait été créé, et que les lois spirituelles dominent toutes les lois naturelles. Pensez à des choses impossibles. Si on avait déclaré autrefois qu'on allait faire voler des avions comme des Airbus et des Boeing avec des centaines de je sais pas combien de tonnes et des tonnes et des tonnes, on aurait dit, cet immense engin que vous voyez là, il va s'élever dans les airs, il va aller jusqu'à 11 000 mètres de haut, et puis il va faire des milliers de kilomètres, il va atterrir à l'autre bout de la planète. Vous imaginez le choc que ça aurait été pour des gens d'autres générations. Et donc, cette chose lourde, immense, est capable de voler à cause d'une loi naturelle qui est plus forte que la loi de la pesanteur. D'accord ? C'est cette loi de cette force de propulsion qui permet alors à l'avion de décoller et de rester là-haut. C'est formidable. Et donc, nous devons réaliser que si de telles lois existent, ça nous ouvre les yeux par rapport à nos impossibilités. Nous voyons une chose et on dit, c'est impossible. Jamais rien ne peut marcher comme ça. Et Dieu doit s'étonner de notre peu de foi. Et Jésus lui-même était étonné, genre de peu de foi, jusqu'à quand serai-je avec vous, des choses comme ça. Alors, une loi spirituelle peut se mettre en œuvre aussi. Et nous avons des exemples. Marcher sur l'eau, ça veut dire quoi ? Il y a une loi spirituelle qui se met en route, qui est plus forte que la loi naturelle. La loi naturelle, la gravité qui fait que le corps du Seigneur aurait normalement dû descendre dans l'eau, était arrêtée par la loi spirituelle de sa foi dans la parole, de la même façon que la barque avec les disciples ne pouvait pas couler parce que Jésus avait dit « Allons de l'autre bord ». Et de la même façon que toutes les autres choses se sont réalisées. Une loi spirituelle domine toute loi naturelle. D'accord ? Alléluia. Et dans Job 4, 12, j'ai trouvé une bonne parole qui me plaît. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en a recueilli les sons légers. Alors, je crois que c'est cette parole de Dieu que vous avez besoin. Il nous est dit ici, une parole arrive furtivement. Dieu ne vient pas toujours faisant éclater les portes, une grosse voix qui s'impose à nous. Mais la Bible nous parle des fois d'un murmure doux et léger dans lequel le Saint-Esprit parle, qu'il vous communique des paroles de foi, à vous de les recueillir alors et dire, maintenant je m'appuie sur cette parole. Et maintenant je vais faire déplacer cette montagne d'impossibilité que je croyais jusqu'à présent. Alors, lançons, ouvrons notre bouche et lançons des flèches de délivrance. L'illustration, c'est comme l'histoire du prophète quand il était âgé et que le prophète Élisée, que le roi est venu jusque vers lui. Et puis Élisée s'est dit, il faut faire quelque chose pour lui. Il a dit, amène ton arc et tes flèches. Il a posé ses mains dessus et quelque chose de surnaturel s'est passé à ce moment-là. Il a fait cette action prophétique de lui dire, maintenant tu vas à la fenêtre et tu vas tirer une flèche. Et quand il a tiré une flèche, il a dit, c'est une flèche de délivrance des ennemis, contre les ennemis d'Israël. Et donc il y a plusieurs actes comme ça qui ont été faits. Et j'ai dit, c'est ce que Dieu a mis dans ton cœur et dans ta bouche. Cette capacité de lancer une flèche contre l'ennemi. Mais si tu dis, moi j'ai mon arc bien rempli, j'ai mon arc, et je suis content d'avoir les armes de Dieu, et je suis content d'avoir les armes de Dieu, et je suis content d'avoir les armes de Dieu, et vous avez toujours les armes de Dieu, mais l'ennemi, il n'est jamais touché comme ça. Un jour, il faudra quand même que pendez cet arc, mettre une flèche dessus, et la faire partir. Et donc, si vous dites, moi j'ai les promesses de Dieu, et moi j'ai les promesses de Dieu, et la Bible est remplie de promesses de Dieu, et il n'y a qu'à s'approprier les promesses de Dieu, L'ennemi, ça ne lui fait toujours rien, d'accord? C'est comme quelqu'un qui disait un jour, mais qu'est-ce que j'ai là dans ma main? Alors, ils ont dit, mais c'est l'épée de l'esprit. Il a dit, mais vous n'allez pas faire la différence entre une épée et puis un livre. Ce n'est qu'un livre, ce n'est pas l'épée de l'esprit, d'accord? La Bible n'est pas l'épée de l'esprit. On le dit tous ensemble? La Bible n'est pas l'épée de l'esprit. C'est un simple livre. À moins que le Saint-Esprit ne lui donne vie et que moi, je ne le proclame de ma bouche, et alors seulement cette parole devient vie. D'accord? Parce que c'est la réalité. Des milliers de gens lisent ce livre comme un simple livre. Ils ne transforment pas leur vie. Ça peut être écrit dessus Sainte Bible, ça ne transforme pas leur vie, à moins que l'Esprit se meuve au-dessus des eaux et quelqu'un dise une parole. C'est là que ça change. Vous êtes d'accord avec ça? Hein, je vous ai un petit peu surpris quand même. On s'est dit, où on va comme ça maintenant? Non, mais parce que c'est important. Sinon, on se dit, mais j'ai tout fait, j'ai toutes les promesses de Dieu, rien ne bouge, comment ça se fait? Parce que les flèches ne sont pas parties. Elles sont restées dans le carquois. On les a toutes, hein, elles sont là, mais on ne les a pas tirées avec notre arc. Donc, lancez des flèches de délivrance. Dites à votre voisin, ce que tu dis s'accomplira. Bon, dites-le de l'autre côté maintenant. Ce que tu dis s'accomplira. Ce que tu dis s'accomplira. Et on le dit à tous, aussi ceux qui nous regardent, ce que tu dis s'accomplira. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que Jésus l'a déclaré, pas parce que nous l'avons rêvé. On s'est dit, nous, on est quand même des champions. Quand on dit quelque chose, Dieu doit vite faire ce que nous lui avons commandé. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Dieu nous donne des paroles et nous sommes les porte-paroles de Dieu dans ce monde. Et nous changeons ce monde par notre foi. Amen.
Amen.
Alléluia. Ça ne vous donne pas envie de dire des choses? On se dit, des fois, hein, quand des catalogues arrivent en une feuilletée, puis on trouve plein de choses intéressantes, que jusqu'à présent, on n'en avait pas besoin, mais là, on trouve des choses intéressantes, on voudrait passer la commande. Mais nous avons souvent beaucoup de choses que nous désirons dans notre vie. Alors, il faut maintenant, c'est une façon... terre à terre de le dire, il faut passer commande, passer la commande, commander aux choses de se réaliser. Moi j'ai envie de dire beaucoup de choses, et je le dis et je le fais, beaucoup de choses concernant l'œuvre de Dieu, ce que nous attendons, que des gens se réveillent. Alors, levons-nous et disons des bonnes choses devant le Seigneur, il est présent, et nous savons que nos paroles sont esprit et vie, et qu'elles vont bien au-delà de ces murs. Seigneur, envoie encore dans cette région, Seigneur, la famine, non pas qu'il n'ait rien à manger, mais la faim et la soif d'entendre des paroles de toi. Seigneur, nous demandons une famine de tes paroles, que les gens désirent entendre les paroles du Dieu vivant. Nous demandons, Seigneur, que toute muraille d'indifférence et d'incrédulité soit abattue dans le nom de Jésus, demandons qu'il y ait une prise de conscience pour les personnes de leur destinée éternelle. Nous demandons à ce que des cœurs s'ouvrent maintenant à ta parole. Nous demandons à ce que des personnes qui sont à la recherche puissent croiser nos pas, que nous puissions être envoyés sur la route de ceux qui ont faim et soif d'entendre de toi. Je prie pour toutes les personnes présentes ici, Seigneur, pour toutes les familles représentées, qu'elles soient des témoins, Seigneur, remplis-les, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Tu as dit, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Merci Seigneur, nous sommes témoins de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Notre frère nous a parlé tout à l'heure, Fabien, de ces langues étranges. Nous pouvons faire ces langues mystérieuses dans votre vie de prière. Priez dans des langues inconnues. Priez les mystères de Dieu. Permettez à votre esprit d'être édifié, fortifié, pendant que vous êtes dans cette présence du Saint-Esprit. Lancez ces flèches de délivrance autour de vous. Dites-lui ce que vous attendez. Seigneur, nous attendons des changements, nous attendons des transformations. Nous attendons, Seigneur, des portes qui s'ouvrent dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous déclarons Nous déclarons que nous croyons et nous recevons pour des bâtiments, pour tout ce que nous avons besoin pour faire avancer cette œuvre au nom de Jésus. Alléluia.